quel effet ça te fait, du coup, d'être de l'autre côté du micro?
Ça me fait très bizarre, j'ai jamais fait un truc comme ça, à part en CM2, quoi. Tu vois, genre, ça remonte quand même.
Ça va bien se passer.
Ouais, j'espère.
Allez, bienvenue à tous sur le canapé de Popcorn Therapy. Servez-vous une tasse de thé, café ou encore mieux un pumpkin spicy latte. Et c'est parti pour une session blabla autour des séries et du cinéma.
Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. On parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité. Et si vous avez suivi notre dernier épisode, vous savez qu'il était consacré à notre avis sur Tenet, le dernier film de Christopher Nolan, ce qui nous a donné envie de nous replonger dans la filmographie de Nolan, un réalisateur qu'on apprécie beaucoup toutes les deux. Et on sait qu'on n'est pas les seuls à aimer Nolan. Et du coup, pour l'occasion, on a invité sur notre canapé une de nos amies, Louli.
Bonjour.
Ravie d'être
ici. Ça fait bizarre.
Oh, mais non. Du coup, Louli, c'est une de nos amies qui est encore étudiante, parce qu'on aime avoir des amis jeunes qui nous rajeunissent et qui voudraient plus tard travailler dans le cinéma. Donc, on s'est dit que c'était une occasion parfaite pour l'inviter, pour avoir un troisième point de vue dans cet épisode qui peut être très dense et apporter une petite touche de nouveauté.
Et puisque notre objectif avec PopT, c'est de parler des émotions et réflexions que nous procure le cinéma, on a sélectionné en particulier quelques grandes thématiques de l'œuvre de Nolan qui nous fait de l'effet. Enfin, on ne veut pas être exhaustif, on ne veut pas faire une thèse en podcast sur Nolan, mais voilà, on a choisi quelques thématiques en particulier.
Ouais, c'est ça. Parce que bon, il y a des points communs dans les films de Nolan, hein, ou du moins dans plusieurs films. On va parler par exemple des attraits pour la science, de plusieurs thématiques. Bon, il y a aussi le côté un peu assez contemplatif qu'on retrouve dans certains films dont on ne va pas forcément parler. Mais voilà, on va parler de plusieurs sujets qu'on retrouve dans de nombreux films.
Et on rappelle que ni Charline ni moi ne sommes spécialistes de cinéma. Louli va peut-être apporter un point de vue un peu plus éclairé, érudit sur vraiment la technique du cinéma. Mais on te met beaucoup de pression.
Ouais, un peu, ouais. Je suis qu'étudiante, moi.
Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faudrait peut-être... dire un peu plus de quoi on parle en fait. Certes, on parle de Christopher Nolan, mais peut-être que toutes et tous ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans l'œuvre de Nolan. On va éclairer un peu tout ça.
Exactement. Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas, hein, Christopher Nolan, c'est un scénariste, réalisateur et producteur qui s'est fait connaître dans les années 70 avec son film au tout petit budget, si je me souviens bien, c'est même lui qui avait le budget, Following, tourné en noir et blanc. Il a gagné d'ailleurs plusieurs prix lors de festivals indépendants, ce film. Alors malheureusement, aucune de nous trois ne l'a vu. J'ai cherché, mais de manière légale, il n'est pas facile à trouver. Donc malheureusement, on ne va pas en parler pendant cet épisode. Par contre, il est à noter qu'on y retrouve certaines thématiques dont on parlera plus tard, comme la narration qui n'est pas chronologique et un twist final. Voilà, pour éclairer un petit peu ce qu'on va dire plus tard.
Donc ensuite, en 2000, on a Memento. C'est la quête de vengeance d'un homme qui souffre d'amnésie, genre trouble de la mémoire immédiate à la Dory. référence Nemo, hein. Du coup, il note tout et organise toute sa vie pour s'y retrouver. Ça peut se faire à travers des notes, mais aussi à travers des tatouages, des photos. Parce que, ouais, c'est assez flou combien de temps il se passe entre ses amnésies, mais voilà. Et c'est un film que mon père m'avait montré, qui m'avait donné une grosse claque, notamment à cause du montage de ce film.
2 ans après, il a sorti Insomnia, qui était le remake d'un film norvégien. Alors, je suis désolée pour le réalisateur norvégien, mais je ne vais pas réussir à prononcer son nom. Donc, vous pourrez chercher sur Internet si vous souhaitez chercher le remake de ce film.
Je l'ai mis dans les notes et j'étais sûre qu'aucune de nous n'allait...
avoir le courage.
N'allait tenter ?
Non.
Non, tente pas non. Ça. Non. Non. Il s'appelle Eric.
Voilà. Et du coup, Insomnia, c'est le seul des films dont on va discuter qui n'a pas été écrit par Nolan. C'est une enquête policière et un thriller psychologique dans une ville du coup où il ne fait jamais nuit. Alors moi je l'ai vu à sa sortie au cinéma, j'avais 12 ans du coup, 2002. J'en ai un très très vague souvenir, à part le fait que quand je suis sortie j'avais été contente, j'avais beaucoup aimé. J'avais peut-être pas tout compris, hein, mais ça c'est encore autre chose. Et je m'en souviens parce que c'est le seul film que j'ai vu en tête à tête avec mon père au cinéma, qui lui avait adoré. Et des années après, je me disais, ah oui, j'ai été voir une fois un film avec mon père, je ne sais plus qui est le nom, je ne sais plus le réal, je ne sais plus l'intrigue, je sais juste qu'il faisait tout le temps jour et que le héros était fou du coup à cause de ça. Mais bon souvenir en tout cas.
En 2006, il sort Le Prestige avec deux grandes têtes d'affiche que sont Hugh Jackman et Christian Bale, et ce qui raconte la rivalité violente de deux magiciens au 19e siècle et le mystère autour de la mort de l'un d'eux lors d'un tour qui a mal tourné.
Génial, le tour qui a mal tourné.
C'est ça. Toujours. Mais ouais, moi je l'avais vu sur Netflix, je crois.
Ouais, moi aussi. Je l'avais pas vu au cinéma.
Ouais, pareil.
Je sais plus si je l'ai vu au cinéma, mais je suis sûre de l'avoir vu en tout cas. Bien avant Netflix, à la télé avec mes parents.
Moi, je crois que je l'ai vu, c'est ouais. Mal, ne faites pas ça, mais je l'avais téléchargé. Parce qu'effectivement, je l'ai vu il y a 10 ans, quoi. Il n'y avait pas Netflix il y a 10 ans. En tout cas, je n'avais pas Netflix il y a 10 ans.
Ouais, mais j'avais vu à la télé, parce que je pense que c'est un des films qui passe de temps en temps à la télé. Donc, quoi. Ensuite, évidemment, on a la trilogie des Dark Knight entre 2005 et 2012, avec Batman Begins en 2005, donc l'origin story de comment Bruce Wayne est devenu Batman. The Dark Knight en 2008, où Batman tente d'empêcher le Joker de faire plonger Gotham dans le chaos. Et The Dark Knight Rises en 2012, où face à la menace du terroriste Bane, Bruce Wayne doit réenfiler le costume de Batman pour sauver Gotham. Donc là, je pense que c'est vraiment peut-être une trilogie qui a marqué un tournant dans l'histoire des films de super-héros.
Ouais, je suis d'accord.
Ça nous a toutes marquées, je pense.
Oui. Ah oui, je me souviens encore de l'avoir vu en maison de campagne Dark Knight et d'avoir fait des cauchemars, j'étais en sixième.
On l'a dit que Louis était jeune ou pas?
Ouais, bonjour, enchantée, je suis le bébé.
Ah ouais, non, moi je me souviens surtout de la sortie de Dark Knight au cinéma et je me souviens exactement de ma sortie de la salle où j'étais genre, mais... Oh waouh, c'est le meilleur film de tous les temps, quoi. C'était vraiment... Ça m'a vraiment marqué.
Moi, j'étais terrifiée. J'étais terrifiée. En plus, on m'a laissée toute seule dans une chambre, dans la montagne, là. J'étais pas bien. Bon, entre The Dark Knight et The Dark Knight Rises, comme il y a eu la mort de Heath Ledger qui a un peu fait capoter un peu tous les plans de scénario, en 2010, il sort Inception, qui est mon petit chouchou. Où c'est une équipe de voleurs spécialistes de l'extraction, c'est-à-dire s'introduire dans le subconscient de leurs victimes pour leur voler leurs secrets, donc souvent à travers des rêves, et qui doivent cette fois réaliser une inception, c'est-à-dire introduire une idée dans le subconscient en manipulant les rêves de la cible. Et ce film donc, a été inspiré par un animé que j'adore qui s'appelle Paprika, qui est de Satoshi Kon, une grande figure de l'animation japonaise.
Je ne savais même pas.
Je ne savais pas.
Ah bah c'est un film que j'adore, mais par contre c'est beaucoup plus compliqué qu'Inception.
Ah il faut le faire.
Ah le mal de tête est présent. C'est des rêves dans la réalité, dans le rêve, dans la réalité, et tu fais wow.
Ah, bon à savoir, à regarder.
Ouais.
De toute façon c'est un peu une thématique transversale, le mal de tête chez Nolan.
ouais, clairement.
À part peut-être pour les Batman qui sont un peu différents, mais...
Ouais, plus accessible, c'est sûr. Du coup, deux ans après le dernier des Batman, il a sorti mon film chouchou cette fois, Interstellar. Alors, je dis mon film chouchou, mais je l'ai vu qu'il y a deux semaines. Hein. Voilà, je tiens à préciser. Je tiens à remettre les choses. Voilà, je l'ai vu pour cet épisode. Et du coup, Interstellar, ça parle de quoi? Eh bien, c'est l'avenir de l'humanité sur Terre est condamné. Et donc, un groupe d'astronautes, enfin, qui deviennent astronautes un peu malgré eux, se lance dans une expédition interstellaire pour trouver un nouveau monde habitable en passant par un trou noir. Voilà, un peu déçu de la fin, mais ça reste quand même mon film chouchou. Donc on en parlera un peu plus en détail dans les thématiques plus tard.
Ensuite, on a un petit gap puisqu'on arrive en 2017 avec Dunkerque, où là, on change d'ambiance puisque c'est un film historique et c'est le récit de la bataille de Dunkerque en 1940 qui voit l'évacuation des forces alliées face aux armées allemandes. Donc c'est, là, on change assez radicalement de style par rapport à plusieurs films plutôt de science-fiction qu'il avait fait jusque-là.
Alors pour la petite anecdote, moi j'arrêtais pas de dire que c'était un film historique, et en fait j'ai lu un interview de Christopher Nolan qui a dit que non, ce n'était pas un film historique, c'était un film à suspense genre Hitchcock. Alors je suis peut-être passée à côté du coup, je me dis du film, je l'ai pas ressenti comme ça perso, mais bon, pourquoi pas.
Non plus.
Bah c'est, ouais, c'est, je comprends qu'il... En fait, il l'a construit comme un film à suspense, mais le cadre est clairement historique.
C'est pour ça.
Donc, Il dit ça peut-être pour se dédouaner aussi des quelques erreurs. Libertés ouais, qu'il a pris avec la réalité historique. Mais, et puis pour dire aussi que... Parce que peut-être que le film historique, ça a peut-être aussi une image un peu poussiéreuse, etc. Peut-être. Et qu'il a voulu un peu, comme avec les Batman, dépoussiérer le genre. Mais bon, on est quand même, c'est quand même un autre style que Inception.
Ah ça, c'est sûr, je suis d'accord.
Voilà.
Ah, Hitchcock, je suis pas d'accord, mais bon... bon.
On ne remet pas en cause la parole du réalisateur qui parle de son film.
C'est ça. Qu'est-ce que je peux dire, moi, pauvre néophyte. Mais bon, 3 ans après, il retourne à de la science-fiction, là, par contre. Donc, pas film historique, Hitchcock, non. Donc là, c'est Tenet, dont vous avez déjà parlé dans l'épisode précédent. Donc, c'est un film d'espionnage à la base de voyages temporels où les protagonistes doivent sauver le monde grâce à un mystérieux mot, Tenet.
Très bien.
Bah, c'était vous en avez déjà beaucoup parlé, donc je ne sais pas trop quoi dire.
Oui, non, mais t'as raison. Puis comme il est encore récent, beaucoup de personnes ne l'ont pas vu. J'entends souvent en salle des profs, « Ne m'en parle pas, ne me spoil pas !» Donc voilà, je pense qu'effectivement, on ne va pas trop spoiler Tenet, comme on en a parlé dans l'épisode d'avant. On ne va pas revenir beaucoup dessus dans cet épisode.
Mais en parlant de spoilers, on va quand même signaler que... Bah, on va quand même analyser les grands thèmes et motifs de tous ces films-là. Donc on va forcément dévoiler certains des éléments essentiels des intrigues des films dont on parle. Donc on espère que la discussion restera quand même accessible aux personnes qui n'ont pas vu tous les films mentionnés. Même certaines d'entre nous n'ont pas vu tous les films mentionnés. Donc voilà, mais sachez quand même que si vous préférez, si vous n'avez pas encore vu ces films-là et que vous préférez les avoir sans connaître les grands ou plot twists ou aucun élément d'intrigue, peut-être c'est pas l'épisode pour vous, quoi.
Ouais, bah, je crois que Christopher Nolan, c'est quand même le cinéaste où quand il y a tout le monde qui va le voir, c'est à chaque fois genre non, me dis pas. Et un peu la guerre des spoilers.
Voilà, on va dire qu'il y a prescription pour la plupart des films.
Clairement.
Et du coup, on va entamer notre première thématique. C'est la thématique du temps que Nolan a exploré dans la plus grande majorité de ses films, j'ai l'impression. Alors, il l'explore de deux manières. Donc, la première, c'est le temps relatif, en fait, qui va s'écouler, le temps qui va s'écouler de manière en parallèle à différentes vitesses. Je ne sais pas si j'étais très claire, là. Le temps qui s'écoule... en parallèle à différentes vitesses. C'est plus clair ?
Oui, c'est ça.
Plus clair.
ça va.
Ouais. En gros, c'est vraiment l'élément central de l'intrigue d'Inception, d'Interstellar et de Tenet, d'une certaine façon aussi.
Ouais, oui.
Mais vraiment, vraiment, dans Inception et Interstellar, on a ça, que ce soit à travers les rêves pour Inception, puisque... À partir du moment où on est dans un rêve, le temps s'écoule d'une manière différente dans le rêve ou dans le temps éveillé. Et après, quand il passe à la partie du film où il y a des rêves dans le rêve, à chaque fois, on change de temporalité, quoi.
Ouais.
Donc, c'est ce qui donne à la fin d'Inception un moment assez grandiose où on voit certains moments en ralenti pendant que d'autres sont... à temps réel, enfin bref, ça joue énormément là-dessus. Et dans Interstellar, ça c'est utilisé dans en fait l'écoulement relatif du temps sur différentes planètes. Donc en gros, quand ils arrivent sur une planète, ils savent que le temps qui passe sur cette planète fait s'accélérer le temps sur Terre, par exemple, de leur point de vue. Donc il y a cet élément-là. Et puis il y a aussi le fait que les astronautes, ils peuvent être mis en hibernation. Donc en fait, pour eux, le temps ne s'écoule pas. Ils ne vieillissent pas pendant qu'ils sont en hibernation pendant leur voyage spatial. Mais quand ils se réveillent, il s'est passé un certain nombre d'années sur Terre, quoi. Donc ça joue beaucoup là-dessus.
C'est vrai.
Et donc, ouais, sur Tenet, c'est plutôt un renversement, en fait, du temps grâce à l'entropie qui permet d'inverser l'écoulement du temps.
Et du coup, la deuxième manière d'explorer cette thématique du temps, c'est le temps comme outil de narration. Parce que du coup, Nolan est le spécialiste pour ça, de faire un film dont la narration n'est pas, le temps n'est pas linéaire. Donc on va avoir plein de retours dans le passé, dans le présent, dans le futur, des flashbacks et ci et ça, sans vraiment que ce soit hyper clair à des moments. Donc bon, le début de Batman Begins, dans Memento, dans Le Prestige, dans Inception, je crois que je vais tous les citer, donc je vais m'arrêter là. Et du coup, on s'est posé la question, ok, d'accord, il fait ça, mais à quoi ça sert ? Comme on parle beaucoup d'émotions avec Pop T, qu'est-ce que ça va nous provoquer chez le spectateur et pourquoi il fait ça ?
Ouais, et donc on était toutes d'accord sur le fait que déjà le premier effet que ça nous fait, c'est que ça déstabilise. Et on en a beaucoup parlé pour Tenet, mais ça, quand on va voir un film de Nolan, on s'attend aussi à être déstabilisé, donc ça nous oblige à être dans une concentration particulière pour garder le fil, puisqu'on sait qu'on ne va pas nous offrir une histoire qu'on suit de A à B sans détour, quoi. Et donc, j'ai trouvé que c'était particulièrement le cas dans Inception et dans Tenet, où on perd un peu ses repères, ça provoque un certain vertige qui peut être agréable, hein. C'est pas forcément la prise de tête, c'est aussi agréable de temps en temps de se dire waouh, wow, mais en fait le temps s'est écoulé d'une manière différente que ce que je pensais, mais c'est fou.
Ouais, moi ça me enfin on dirait enfin celui qui m'a le plus perturbé en tout cas c'est Dunkerque où là j'ai rien pigé par contre. J'arrivais pas à
Ah
me
ouais.
situer dans le temps du tout quoi.
Non, bah moi non plus, c'est ce que je disais à Marjo parce que personnellement, moi, j'ai rien compris à Dunkerque dans le sens où j'étais persuadée que tout se déroulait en même temps. Et j'ai
Ah
compris
non.
qu'à la moitié ou voire aux trois quarts du film, j'ai regardé Thibaut et je lui ai dit, mais en fait, c'est pas en même temps? Et il m'a dit, bah non, Charlie, il y avait écrit 1 heure, 1 semaine. Ah non,
Ouais,
mais j'ai rien
ouais,
compris. Alors j'ai absolument rien compris.
Ah, moi,
Mais du coup, ouais,
c'est...
quand tu m'as dit ça, je me suis demandé effectivement si... Parce que moi, je le savais avant de voir le film, qu'il y avait ce jeu-là. Du coup, je n'ai pas été surprise. Mais du coup, j'ai eu un doute quand tu m'as dit ça. Je me suis dit, mais c'était pas écrit au début? J'ai eu un doute. Je savais plus.
Bah, moi, j'avais compris, en fait, le principe, mais alors, en application, je comprenais rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il passait d'un truc à un autre, je pouvais pas me considérer que ça se passait pas en même temps.
Ouais. Mais alors du coup,
Tu vois?
si j'ai bien compris, Tom Hardy dans l'avion, ça dure 1 heure, la bataille dans l'avion et tout. Dans le bateau,
C'est ça.
ça dure une journée, et sur la plage, c'est une semaine.
C'est ça.
Ouais. Ok. Bon bah voilà, ceux qui, comme moi, n'avaient pas compris et n'ont toujours pas compris maintenant, voilà comment ça se passe. Non mais plus sérieusement, est-ce que c'est utile? Parce que clairement, ça complexifie le film, d'accord, ok, ça demande beaucoup de concentration. Mais est-ce que là, ça a vraiment une utilité, que ça apporte quelque chose ou juste pour se dire, ok, c'est du Nolan, on va se prendre la tête. Là, tu vois, autant dans Inception, dans Tenet, j'ai aimé réfléchir, autant là, je me suis dit, je vois pas l'intérêt.
Bah, je pense que pour Dunkerque, comme il disait, il veut faire, c'est pas forcément un film historique, mais il voulait faire un film d'ambiance surtout. Et là, c'est là où je pense que c'est le genre de film, comme la plupart des films de Nolan, qui marche beaucoup mieux au cinéma qu'à regarder chez soi. Mais c'est, y a ce côté-là aussi dans l'immersion, en fait. Dans la vie, on n'a pas la même appréhension du temps à certains moments de no notre vie, quoi. Et donc le fait que, par exemple, le fait que la bataille aérienne, du point de vue du pilote, elle dure une éternité pour lui, alors que c'est qu'une heure, je pense que c'est pour retranscrire ce côté où on a l'impression que chaque seconde s'étire, quoi. Alors que du côté du soldat qui est au sol, ils perdent la notion du temps au bout d'un moment, parce qu'ils sont tellement dans une situation tendue d'attente. Où bah là en plus on l'a tous vécu peut-être avec le confinement ou avec des moments un peu où en fait on n'a plus la même appréhension du temps quand on est mis dans des situations d'attente très longues et donc je pense que c'était une tentative de rendre ça. Après, est-ce que ça marche ou pas? Moi, j'ai plutôt bien aimé ce film. Après, c'est pas mon préféré de Nolan, mais voilà. Je pense qu'en tout cas, l'objectif était ça. Après, est-ce que ça marche pour tout le monde?
Bah
Ça.
clairement, ouais, moi ça, je suis désolée, hein, mais ça a pas trop marché, hein.
Ouais,
Mais
moi
bon.
c'est. Bah déjà, les films de guerre, c'est pas mon truc.
Ce
Mais
n'est pas
alors.
un film de guerre, c'est un film
Oui,
assez
pardon, pardon, je vais me faire taper par Nolan. Les films où on se tire.
sérieux.
Les films où il y a des avions et des gens avec des casques et tout, bon. Mais ouais, moi ça m'a plus perdu qu'autre chose. Mais je comprends l'idée.
Ouais. Pareil, tu m'as un peu plus convaincue, Marjo.
Ouais, c'est ça. On voit l'idée. Mais bah, moi, ce que j'aime bien, par contre. Ce que je peux pas enlever, c'est que j'aime beaucoup les jeux de montage. Et c'est un truc que Nolan fait très bien pour rendre le temps. Il y a donc deux montages types de montage qui existent et qu'on voit particulièrement dans Dunkerque Inception. On a le montage parallèle et le montage alterné. Alors, qu'est-ce que
C'est
c'est?
ce que j'allais dire. Qu'est-ce que c'est? Explique-nous tout,
Qu'est-ce que
Julie.
le montage alterné et qu'est-ce que le montage parallèle?
Est-ce que c'est là où j'insère un petit « c'est pas sorcier » ou
Eh oui, Jamie. Quand on monte un film, on a donc soit une scène classique où il se passe la même chose dans une même pièce, voilà, ça va être une scène classique. Par contre, si on fait un montage où on met, par exemple, une scène qui se passe à la maison et ensuite on coupe sur un personnage qui est dehors et qui sonne à la maison. Dans ce cas-là, on appelle ça un montage alterné. C'est deux scènes qui se passent en parallèle dans le temps. Ouais. Et vous voyez ce que je veux dire ?
Ah ouais. C'est même pas que ça existait. Ça fait des
noms. Ouais. Alors que le montage parallèle, c'est donc encore une fois, on a deux scènes différentes, sauf que c'est pas forcément dans le même temps, c'est plus parfois des transitions. C'est plus une espèce d'idée qui se transmet d'une scène à une autre et qui, bien sûr, se répète. Où on revient à la première scène, on revient à la deuxième scène, etc. Donc pour vous donner un exemple...
Ouais. Avec des flashbacks, par exemple, ce genre de choses.
Ouais, ça, ouais, voilà, ça, ce sera un montage parallèle. Tandis qu'un montage alterné, ce serait deux personnages qui se rejoignent. Et donc, on filme le mec qui court vers l'avion, puis la meuf qui sort de l'aéroport. Je sais pas, j'ai revu l'arnaqueur récemment. Donc, et qui, au fur et à mesure, on a les deux courses qui vont se rejoindre. Là, c'est plus un montage alterné parce que ça se passe en même temps.
Ok.
Bah, par exemple, dans Nolan, Inception, pendant la chute, on disait celle qui se, donc, comme une seconde, c'est une heure qui est une semaine au fur et à mesure des rêves. Et bah, quand ils tombent tous, là, ça se passe en même temps, en fait. C'est pour ça qu'il y en a qui sont au ralenti. Et donc, ça, c'est un montage, alterné. Parce que c'est exactement dans le même temps.
Ouais.
Toutes ces scènes, voilà, c'est alterné. Tandis que dans Dunkerque, pendant tout le film, donc comme c'est des temps différents, et juste les transitions, ça va être un bateau et un autre bateau, alors qu'il y en a un, c'est celui de un jour, tandis que c'est l'autre, c'est celui d'une semaine, et ben là, c'est un montage parallèle.
Ok.
Eh, hey Marjo.
Et pareil, on a ça aussi. Oui, pardon, vas-y.
Bon, bah, j'allais dire, hey Marjo, viens, on invite plus souvent des produits cinéma.
Parce que je veux dire, du coup, j'ai dit, ah, mais c'est trop bien, parce que du coup, on retrouve ça aussi dans les films Dark Knight, où en fait, par exemple, genre dans Batman Begins, on a beaucoup plus, alors c'est là que je vais essayer de voir si j'ai compris, on a beaucoup plus de montage parallèle, parce que ça joue beaucoup sur les flashbacks de Bruce Wayne et les moments de sa vie qui le mènent à devenir Batman, quoi.
Ouais.
Alors que, par exemple, genre dans Dark Knight, le suspense, par exemple, de la scène où il y a Harvey Dent d'un côté et...
c'est ça.
La copine... elle est tellement insignifiante que j'arrive pas à souvenir son nom. Bref, la fille, la seule fille du film de l'autre. Et du coup, il y a un montage alterné parce que tout se passe en parallèle avec le décompte.
C'est ça.
On ne sait pas qui va arriver à temps pour sauver qui.
C'est ça. Et ça permet de montrer le suspense. Parce que tout se passe en même temps et donc on se dit qui va arriver le premier, etc.
J'aime bien ça.
Voilà.
Mais sauf que du coup, Nolan, il utilise du montage parallèle pour faire du suspense parce que du coup, il utilise les différentes temporalités, même si c'est pas en même temps, pour créer quand même le suspense. Bah, par exemple, comme tu disais dans Inception, quoi.
Ouais, bah en fait, pour moi, le problème, par exemple, de Dunkerque, c'est que j'avais l'impression de voir du montage alterné alors que c'est du montage parallèle. J'avais l'impression que tout se passait en même temps alors qu'en fait non, ce qui fait que en fait il joue avec ces deux types de montage pour te perdre. En fait,
il aime bien nous perdre, hein, de manière générale. J'ai l'impression que c'est son objectif. Plus on va sortir du cinéma en disant j'ai rien compris, j'ai le cerveau en compote, plus il est content.
Christopher Nolan, le labyrinthe.
Ouais, peut-être qu'à force ça m'usera. Pour l'instant j'adore, hein. J'adore vraiment ses films et tout, mais je pense qu'à force ça va me saouler.
C'est bon, on a compris qu'on a rien compris.
C'est ça.
La version un peu extrême, c'est du coup les scénarios de son frère Jonathan Nolan, qui a bossé avec lui sur plusieurs de ses films. Alors, je me souviens plus exactement sur lesquels, mais je suis pratiquement sûre que sur Inception il y était aussi. Mais du coup, après, lui, il est parti de son côté et pour faire plutôt des séries, notamment Westworld, où là c'est la version encore plus de construction en labyrinthe.
Ouais, cette famille.
Donc, ouais, je pense que les deux, là, c'est un peu le concours à celui qui fera l'intrigue la plus labyrinthique.
Et du coup, pour revenir à nos moutons et donc de notre temps C'est aussi le cas pour Insomnia. Donc je crois que c'était il y a que moi qui l'avais vu. Non, Louli, tu l'avais vu aussi. Je sais plus.
Non, j'ai pas réussi à le trouver.
C'est comme Following. Plus ils sont vieux, plus c'est dur. Et bah, du coup, pour Insomnia, comme je vous le disais, en fait, il n'y avait pas de nuit. Et du coup, c'était, enfin, même moi, enfant, je m'en rappelle encore, c'était très dur de se situer dans le temps, de comprendre quand était quel jour et de se situer, parce que du coup, il y avait tout de mes souvenirs, encore une fois, très vagues. C'était une enquête, une chasse, un peu une chasse à l'homme. Et du coup, j'avais l'impression que ça durait, tout sur une journée, mais ils avaient le temps de faire en un mois ce qui se passait en une journée. Donc pareil, ça déstabilisait pas mal. Et dans le prestige aussi, comme on bascule du passé au présent sans cesse, en fait, il y a trois temps différents. Celui de l'histoire avec la création des numéros de magie, l'espionnage, l'histoire d'amour. Celui où Angier, donc joué par Hugh Jackman, lit le journal de son rival. Et le présent où son rival, donc Alfred, joué par Christian Bale, lit le journal d'Angier, écrit en même temps que pendant celui qu'il lit. Qu'il lisait celui d'Alfred. Ouais, c'est à l'air pas clair comme ça, mais en vrai, je trouve que ça a été le plus clair de tous ces films, parce que les trois temps, ils passent tous dans le même ordre. Et c'est vraiment montré comme des flashbacks, en disant « Regardez, c'est un flashback !» Du coup,
ouais, c'est ça.
Là, c'était pas clair à dire comme ça, mais au final, je trouve que c'est celui qui nous a déstabilisé le moins.
Il faut le prendre comme un film surnaturel, on va dire. C'est un film un peu fantastique. Donc, parfois, on se dit « Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, quoi. »
Ouais, mais alors tu vois, moi j'ai pas trouvé qu'il était tant fantastique que ça. Enfin, on reviendra dessus quand on parlera de la partie un peu scientifique. Mais à part une petite broutille, sinon je trouvais que ça faisait un peu réel quand même.
Une petite broutille qui est le plot twist du film.
Dédoubler, mais c'est une petite broutille. Bon, vous m'avez compris.
Et enfin, encore un montage très intéressant. Enfin, un qui m'avait donné une grosse claque, donc c'est dans Memento. Donc Memento, donc, c'est un film qui est monté à l'envers. C'est-à-dire qu'on commence de la fin pour arriver au début.
Ah, c'est ça que tu disais, je comprenais pas. Comme Irréversible, alors.
Comme Irréversible. J'ai pas vu Irréversible.
Ah si, c'est un film, alors moi il m'avait mis une claque, je l'ai vu un peu trop jeune je pense, c'est peut-être pour ça que ça m'avait perturbée. C'est un film où c'est une nana, Monica Bellucci, qui se fait violer et son copain Vincent Cassel, si je me souviens bien, la venge. Mm-hmm. Et en fait tout est monté à l'envers, donc le viol arrive à la toute fin. Et du coup j'avais rien compris. Mais les scènes sont très choquantes et très violentes. Vraiment, ne pas le regarder en dessous de 20 ans.
C'est littéralement l'histoire de Memento.
Ah bah d'accord.
C'est ça.
Ça commence par un meurtre et ensuite on remonte le temps donc pour savoir pourquoi il en est arrivé à le tuer, tout en ayant le petit twist du personnage Dory. Enfin donc il s'appelle pas Dory hein, mais
un peu plus complexe quoi quand même du coup.
C'est ça. Il y a juste par rapport à des tatouages et tout, donc c'est pour ça qu'il se rappelle, et des photos. Mais on commence par le meurtre, et on découvre donc le cheminement qui s'est passé avant pour qu'on arrive à ce meurtre. Mais la première scène, c'est littéralement, je crois qu'on voit même la balle revenir dans le pistolet, ça commence comme ça, et après ça fait les scènes quand même à l'endroit, mais à l'envers.
D'accord.
Je sais pas si je me fais comprendre.
Ouais. Mais là, en fait, le prétexte dans Memento d'avoir cette construction comme ça, c'est vraiment le problème d'amnésie du personnage principal qui lui-même en fait vit sa propre vie. Enfin, est obligé à chaque instant de remonter en fait ses souvenirs avec les traces qui se laissent, les indices qui se laissent sur lui-même, etc. Donc c'est pas juste l'histoire qu'elle raconte à l'envers, c'est pour ça que je pense que je l'ai pas revu depuis très longtemps à Memento, donc j'en ai qu'un souvenir un peu vague, mais il me semble que ça reste quand même linéaire du point de vue du spectateur qui suit le personnage en même temps qui remonte un peu ces indices, en fait. En fait, on nous donne les indices en même temps que le personnage les remonte lui-même. Il me semble. Hein. Peut-être que j'ai un souvenir un peu de...
En fait, il peut pas se souvenir... il peut pas se souvenir de toute façon de ce moment-là. Mais nous, plus on comprend au fur et à mesure pourquoi ça a amené à cette scène-là.
Mais du coup, on ne voit pas les scènes dont il se souvient pas.
Si. Bah, à chaque fois, il se souvient pas de toute façon. Oui, oui. À chaque fois, il se souvient pas de toute façon. Ça commence
oui, non,
par
ça, j'ai
le
compris.
Meurtre. Et...
Mais est-ce que ouais. Nous, on voit les scènes que lui, il a oubliées? Ou non, on est
au
comme lui.
Dans... On voit que ça, en fait, parce qu'il a aucun souvenir de. Enfin, à partir du moment où sa femme se fait violer et tuer.
En fait, on remonte. En fait, on est dans la peau de ce mec-là au début parce qu'on voit une scène et on ne comprend pas comment on en est arrivé là. Et au fur et à mesure, on remonte grâce aux traces qu'il a laissées, aux indices qu'il s'est donnés. Et on revit ce que lui a oublié, en fait. Mais
d'accord,
à l'envers.
Ok, je viens de voir.
C'est ça.
Ok, ça peut être sympa, en effet.
J'aime beaucoup. Il y a juste un seul mini problème, je trouve, c'est qu'il y a des scènes en noir et blanc qui font un peu des transitions entre les souvenirs et on ne comprend pas d'où viennent ces scènes.
D'accord.
Voilà. Et
ça,
c'est des histoires en noir et blanc. Ah ouais, c'est des scènes en noir et blanc. Il se part un peu à lui-même. Il est tout seul dans une chambre. En plus, c'est en noir et blanc, donc c'est pour un film en couleur. Et, okay. Et vraiment, elles n'ont pas l'air d'être importantes, ces scènes, parce qu'elles ne servent à rien. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, dans la version bonus du DVD, il y a le montage à l'endroit du film.
Ah, ça,
j'ai
c'est
pas
sympa.
Vu, mais qui pourrait être intéressante à regarder, je pense.
Ouais.
Voilà.
Pas mal. Pas mal, pas mal.
Ouais, mais c'est vrai, il faudrait que je le revoie, ce film. Mais pareil, il est pas, je crois pas qu'il est disponible sur les plateformes. Il faut le retrouver.
Ouais, c'est mon père qui l'avait en DVD, donc...
mais il me semble qu'il est en DVD chez mes parents aussi. Ça me dit quelque chose.
Et du coup, pour finir sur le ton...
Ouais, un autre effet que ça provoque, je trouve, dans certains films, pas dans tous, c'est ce montage non linéaire. C'est des chocs émotionnels, en fait. Où, en fait, au moment où on se rend compte que par rapport au point de vue qu'on a suivi, un autre personnage a vécu une réalité différente, en fait. Et où qu'en fait, c'est pas juste déstabilisé et qu'on comprend plus ce qui se passe, c'est que ça fait vraiment un choc de se rendre compte du temps qui s'est passé, quoi. Et ça se passe dans deux films en particulier. Dans Interstellar, avec la fameuse scène de Matthew McConaughey qui se met à pleurer face aux vidéos de ses enfants.
Horrible, cette scène.
Parce que pour lui, il s'est pas passé de temps. Et en fait, ses enfants... ont continué à grandir et à vieillir et ils reçoivent tous les messages d'un coup de leur vie, quoi. Et de l'effet de son absence. Donc c'est vraiment un niveau choc.
Ouais,
c'est pas
horrible,
mal.
Cette scène est horrible. Et d'ailleurs...
Puis la manière dont... Ouais.
Juste petit bonus. Vous savez à quel point je suis fan de la nouvelle série de La Bande à Picsou. Dans la deuxième saison, il y a un petit clin d'œil à ce passage. Donc si vous voulez aller le voir... Vous verrez, ça m'a fait... je ne sais pas si le clin d'œil, il est voulu ou pas voulu, mais moi, ça m'a fait penser direct à ça. Et comme il y a d'autres petits clins d'œil, de style à Batman et tout, qui sont très, très visibles, j'ai supposé que ce clin d'œil, je ne l'avais pas imaginé. Mais voilà, ouais. Allez voir.
Faut que je commence la saison 2, absolument.
Faut que j'aille au-delà du premier épisode.
Oui, je regarde. Et du coup, la deuxième scène ?
Oui, et la deuxième scène qui m'a aussi marquée de ce point de vue-là, c'est dans Inception, puisque en parallèle de la storyline de l'Inception, justement, il y a celle où on découvre petit à petit ce qui est arrivé à la femme du héros, qui est jouée par Marion Cotillard, enfin à ce couple en fait, et tout d'un coup, on a cette révélation que ce couple a passé un temps démesuré à créer un univers onirique, mais qu'ils ont passé vraiment plusieurs vies quoi, dans ce monde-là. Et ça change complètement l'appréhension de la charge en fait, émotionnelle, je trouve, dans ces personnages et ce qui justifie le suicide. Là, on spoil, mais ce qui justifie le suicide d'un des personnages. Et moi, ça m'avait vraiment... mis en larmes aussi, ce moment-là.
C'est vrai. Bon, du coup, passons la thématique du temps. Je pense qu'on a bien parlé dessus. Autre thématique qu'on retrouve très souvent chez Nolan, c'est le plot twist.
Tout à fait, puisque bon, ça, on en a déjà un petit peu parlé. Mais les scénarios de Nolan sont assez cérébraux, en général, avec des plot twists plus ou moins alambiqués. C'est particulièrement le cas dans Le Prestige. Mmh. On a évoqué de manière un peu superficielle Interstellar avec un plot twist aussi qui est lié au temps, justement. Mm. Inception, ça, on vient d'en parler. Et Memento, ça, on n'a pas dit le plot twist, mais parce qu'il y a un gros plot twist.
Mais ouais, spoilons pas. C'est le même principe. Quand c'est pas obligatoire, ne spoilons pas.
Voilà. Ah non, mais... C'est ça qui donne toute la saveur de Memento.
Bon, par contre, moi, j'ai une toute petite question, là. Est-ce que le fait d'avoir toujours un plot twist chez Nolan, ça gâche pas le plot twist? En mode, bon, on sait qu'il va y avoir un plot twist, allez, dépêche-toi d'y arriver, et s'il y en a pas, est-ce qu'on n'est pas un peu déçu?
Bah, moi, je pense que, parfois, comme il essaie de trop compliquer les choses dans son histoire, en plus, et bah, ça... Enfin... C'est juste pour avoir un twist, parfois. C'est comme si on te mettait plein d'éléments pour tu sois encore plus surpris à la fin, donc plein de fausses pistes, entre le montage, le temps dont on a parlé, qui est toujours compliqué, et tout, bah, parfois, moi ça me perd, ou alors j'essaye de deviner.
Ouais, moi aussi.
Et à partir du moment où j'essaie de deviner, et que je devine, et là, il y a un problème.
C'est ça. Moi, je devine rarement parce que je t'avoue que je suis souvent trop perdue pour deviner. Et puis, j'ai des gros problèmes de concentration. Donc, très souvent, je décroche dans les films. Donc, c'est vrai que pour deviner, il faut vraiment le faire. Par contre, j'ai fait voir à mon copain, à Thibaut, il y a 2 semaines, Le Prestige, que moi, j'ai vu 15 000 fois. Et lui, c'était pour la première fois. Et au bout de peut-être 15 minutes de film, il a absolument deviné tous les plot twists finaux. Donc voilà. J'étais là, ok, bon bah, moi je pensais que j'allais te surprendre avec mon film, c'était raté.
Donc, alors, ouais, moi je me souviens, le Prestige, la première fois, alors j'avais rien deviné, ou peut-être que j'avais des soupçons, mais je comprenais pas comment c'était possible en fait, parce que comme on va le redire, dans Le Prestige, l'élément fantastique arrive très tard, quoi. Donc on peut pas se douter que ça va aller aussi loin dans le fantastique.
Ouais, c'est vrai.
mais je me souviens que je l'ai revu, mais plusieurs années plus tard, où je me souvenais que d'un élément, mais j'ai jamais eu l'impression de redécouvrir le film et de me faire piéger dans plein d'éléments quand même de l'intrigue. Donc ça avait bien marché en fait, malgré que je savais certaines des choses, mais j'avais oublié la moitié. Mais ouais, mais après moi je devine, je suis loin de deviner du coup, comme je disais, les plot twists à chaque fois. Après, j'ai quand même du plaisir, moi, à essayer de récolter les indices et à voir comment les pièces du puzzle vont se mettre ensemble. Enfin, c'était typiquement le cas dans Tenet, où on en a beaucoup parlé dans l'épisode, mais une fois qu'on a compris le principe de base, on devine pas mal des choses qui vont se passer dans la deuxième partie du film. Et moi, ça m'a pas... autant, je sais que toi, Charline, ça t'a un petit peu... ennuyée du coup, mais moi j'ai toujours le plaisir de, même si j'ai d'à la fois avoir la satisfaction de oh j'avais raison et à la fois le maintenant que j'ai deviné, j'ai hâte de voir comment tout va se mettre en place, quoi.
Ouais.
Mais ouais.
Ouais, je comprends. Après, chez Nolan, moi j'ai remarqué qu'il y avait deux types de plot twist. Il y a le plot twist révélation d'un secret, hein, donc comme dans The Dark Knight Rises, sur qui est Marion Cotillard, par exemple, ou encore dans Le Prestige, donc avec deux révélations, non pas une, mais deux. Donc une, on a dit, un peu extraordinaire, dont on parlera tout à l'heure, et puis la deuxième, qu'on va laisser en suspens, voilà, pour ceux qui veulent aller voir Le Prestige, qui est sur Netflix. Et le plot twist où je trouve, alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça un plot twist, mais celui où on reste un peu sur notre fin, on ne sait pas exactement comment ça se finit, et c'est un peu à nous d'imaginer, et je pense là particulièrement à Interstellar et surtout à Inception. Et d'ailleurs, en parlant d'Inception, donc ça c'est pas, je pense que ce film est tellement vieux qu'on peut en reparler, mais savoir si à la fin la toupie tourne ou tombe, et du coup si Cobb, et dans le rêve ou dans la réalité, et donc est-ce qu'il a un happy ending où il retrouve ses enfants ou pas, tout le monde se posait la question. Je me rappelle, pendant un an, tout le monde était là, mais ça tombe ou ça tombe pas? Et Louli m'a fait part d'une théorie qu'elle avait lue, et du coup que j'ai foncé aller voir, j'ai revu le film, et là je me suis dit, mais c'est vrai.
Donc t'es d'accord avec moi?
Je suis d'accord. Du coup, oui.
Alors, explique-nous.
À toi.
Alors, ouais, alors moi je l'avais vu dans une vidéo de Durandal. Je ne sais plus laquelle, probablement celle sur Christopher Nolan. Mais donc il y a un youtubeur cinéma. Voilà. Donc la théorie, c'est que la toupie, c'est l'objet totem de, du personnage de Marion Cotillard. Donc, ce n'est pas celui de Cobb. Donc, quand il tourne la toupie, ça ne change rien qu'elle tombe ou pas. Parce que c'est pas son totem, ça, c'est pas ça qui détermine s'il est dans un rêve ou pas. Ce qui détermine s'il est dans un rêve ou pas, c'est son alliance. Son alliance qu'il a que pendant les rêves. Et à la fin, il a bien pas son alliance, donc on est dans la réalité. Mais cette toupie n'a... Enfin, c'est juste pour mettre un peu plus de petits trucs qui font réfléchir. Mais en fait, elle sert à rien. C'est un token de sa femme. Mais ce n'est pas ce qui détermine si on est dans la réalité ou pas.
La toupie, c'est uniquement pour que Christopher Nolan soit content qu'il y ait son élite qui comprenne et les autres qui ne comprennent pas. Non, mais il a dû bien se marrer quand même. Hein.
Et moi, je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, parce qu'ils avaient ressorti Inception au cinéma et j'étais retournée le voir, je pense que c'était l'année dernière. Et je me souviens à ce moment-là d'avoir vu aussi, c'était une ressortie de... Je pense qu'il y a bien Michael Caine dans ce film, bien encore sûr, une fois.
Oui,
ouais, c'est ça, il est partout. Et genre peut-être 10 ans après, il sort le fait que lui, il n'avait jamais compris dans quel moment c'était le rêve, à quel moment c'était la réalité. Et il y a Nolan qui lui a dit, mais c'est hyper simple, à chaque fois que toi, t'es dans une scène, c'est la réalité. T'es jamais dans une scène qui est
mais oui, onirique. C'est vrai en plus.
Donc...
bah oui.
Du coup, c'était un autre moyen de... Mais c'est pas un moyen... dans l'intrigue, pas comme l'explication qu'a vient de donner Louli, qui est je pense la bonne,
oui, je pense aussi,
le bon truc qu'on peut récolter dans le film, mais ouais, j'ai trouvé ça assez drôle de vérifier ce truc là.
En tout cas, je suis grave contente qu'on ait fait cet épisode parce que je suis grave contente du coup de connaître cette théorie et de me sentir intelligente.
Et franchement, heureusement que c'est la réalité à la fin, parce que je me souviens la dernière fois que je l'ai vu, en voyant cette scène finale, je me dis mais franchement, si c'est pas réel cette fin, mais c'est horrible ce film. Enfin, ça serait vraiment la déprime la plus totale, quoi.
Il est retourné dans l'illusion. Génial. On a fait tout un film pour qu'il retourne dans l'illusion.
Le pire du pire, c'est que je me rappelle avoir passé des heures à regarder le film en mettant pause sur la scène du début, la scène de la fin, pour savoir si les enfants avaient la même tenue, s'ils avaient vieilli, si. Oh là là, mais tout ça pour rien, quoi. Non mais.
Tout ça pour que ce soit pas du tout ça l'indice.
Enfin bref, autre thématique, les dilemmes moraux.
Oui, donc le bien, le mal, les choix qu'il faut faire. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on discute souvent, je pense, dans la filmographie de Nolan. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui se retrouve régulièrement et qui, moi, me plaît énormément. Pas que dans la filmographie de Nolan, dans le cinéma en général. Et en gros, dans ces films, les personnages sont toujours mis dans des situations extrêmes, en fait, qui posent toujours, en fait, la question de la limite de la moralité et du coup, la folie qui va avec. Donc, un des exemples qui m'est venu en premier, c'est le Prestige, avec, du coup, cette rivalité, cette surenchère sur la rivalité, où là, du coup, dans le genre amoral, c'est pas mal.
C'est sûr.
Mais on a aussi plusieurs fois la thématique de sauver l'humanité à quel prix. Donc c'est le cas en particulier dans Interstellar et dans Tenet, du coup. Et pour moi, le chef-d'œuvre pour la question de la moralité, c'est The Dark Knight, avec les personnages de Harvey Dent du Joker, où c'est le sujet de la moralité, du chaos et le concept, du coup, le même concept même du chevalier noir, quoi, du choix que fait Batman à la fin de The Dark Knight, qui est, pour moi, c'est ce qui en fait un des plus grands films de tous les temps, quoi. De mon point de vue, hein, de point de vue de mon goût, parce que j'adore ce genre de choses, quoi. Mais ouais, c'est... C'est toujours des choses qui me fascinent, mais qui peuvent aussi me faire détester un film si jamais j'adhère pas à la résolution du dilemme moral, parce que des fois ça nous laisse pas le choix. Autant on a des fois ça nous laisse le choix en fait de choisir qu'est-ce qui est moral, ce qui est pas moral, Et du coup, c'est ce qui me fait adorer The Dark Knight, mais qui me laisse par contre vraiment mal à l'aise sur le happy ending d'Interstellar, et la raison pour laquelle j'aime pas la fin d'Interstellar. Donc voilà, c'est à la fois la chose qui me fait adorer The Dark Knight et qui me laisse sur la fin sur Interstellar, alors que j'adore tout le reste du film, mais à chaque fois la fin me laisse sur un goût
sur Interstellar, il y a une théorie qui dit que c'est pas un happy ending, mais qu'il est en train de vivre une expérience de mort imminente. Alors je me lancerai pas dans des explications parce que j'ai lu la théorie et je l'ai pas comprise. Je suis désolée. Hein. Des fois, franchement, on va à la fin de l'épisode, les gens ils vont se dire mais elle est bête, en fait elle comprend rien, elle comprend pas les films, elle comprend les théories.
Mais non.
Mais j'ai lu le truc. Peut-être que c'est parce que ça m'a pas convaincue. Mais voilà, il y a des théories comme quoi en fait il est mort quoi. Et que c'est pour ça que quand ils disent de la super phrase là qu'ils n'arrêtent pas de répéter, n'entre pas dans la mort docilement, si on traduit en français, et que Matt Damon lui dit quand tu vas mourir, la première chose que tu verras c'est tes enfants, bah c'est pour ça qu'il se retrouve dans la bibliothèque. Mais alors pourquoi est-ce que s'il meurt et qu'il voit ses enfants, il arrive quand même à transmettre un message ? Ça, j'ai du mal à... Peut-être en fantôme ? Ah, peut-être en fantôme ! Non, je sais pas. je vous avoue que voilà, cette théorie, si vous voulez aller la voir, tapez ça dans Google, mais...
Ouais, non mais ça me pose question, parce qu'en fait moi, pour dire un peu plus, ce qui me gêne dans la fin d'Interstellar, c'est que pendant tout le film, il pose vraiment le dilemme de sauver, pour le coup, vraiment sauver l'humanité, à quel prix ? Est-ce que on tente par tous les moyens de faire partir un certain nombre de personnes sur Terre, enfin de sauver une partie de l'humanité qui est sur Terre et de l'emmener sur notre... planète, enfin, ou en tout cas de réussir en tout cas à les faire quitter la Terre, ou est-ce qu'on les laisse tomber et on a de toute façon ce qu'il faut pour repeupler une autre planète. Et c'est vraiment bizarre la manière dont ils font le choix de dire on peut faire les deux quoi, en gros.
c'est vrai.
Mais surtout on peut faire les deux, à la fin ils sont sur leur espèce de station spatiale à la Wall-E un peu, et en fait ils sont genre super contents, c'est parfait, et comme si il y avait eu aucun problème en fait pour choisir qui part et qui part pas, parce qu'ils ont pas pu emmener tout le monde, c'est pas possible quoi. Même ça ils le disent, ils ont pas pu emmener tout le monde, et du coup ils ont tellement insisté sur les problèmes sociaux qu'il y a sur Terre avec cette fin du monde. Et ça s'efface comme par magie à partir du moment où ils partent dans l'espace. Ça m'a vraiment... J'étais genre...
C'est peut-être pour ça qu'effectivement, l'expérience de mort imminente, au final, c'est pas con, hein, peut-être.
Bah, peut-être.
J'en sais rien. Parce que c'est vrai que c'est bizarre comme fin pour Nolan, cette fin-là. Parce que moi, ce que je m'étais dit, c'est qu'effectivement, il y a des dilemmes moraux entre celui dont tu viens parler et puis aussi le fait qu'au tout début, la planète est en train de mourir. Alors, il réinvente l'histoire pour mieux prendre, entre guillemets, soin de la planète avec... il n'y a pas de conquête spatiale, la mission Apollo c'était un mensonge, etc. Est-ce qu'on peut mentir pour le bien de l'humanité ? C'était un concept intéressant aussi. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'il ne donnait pas vraiment de réponse. C'était un peu, débrouillez-vous avec cette question. Et du coup, nous, on était un peu partis en débat. Est-ce que, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut pas le coup ? Est-ce que, effectivement, pour des gens qui ne réfléchissent pas, c'est méchant, hein. Mais pour des personnes qui penseraient plutôt à eux avant aux autres, est-ce que ça vaudrait le coup de leur mentir pour qu'ils pensent aux autres avant ? Tu sais, c'était sympa. Et effectivement, la fin gâche un petit peu ça, mais. Du coup, peut-être qu'il y a une sous-fin. Peut-être que dans 15 ans, tu vois, comme pour Inception, on va apprendre un truc et on va se dire « Ah, mais oui !»
C'était donc ça.
mais sur cette question-là de « Faut-il réinventer l'histoire ?» etc., ça m'a fait du coup penser à des choses que... Alors pareil, je ne suis pas allée à fond sur ces théories-là, mais j'ai laissé après mon cerveau marcher pour recréer même, pour voir si ça faisait sens dans ma tête, et pour voir la manière dont Interstellar et Tenet dialoguent en fait sur cette question de la fin du monde, et surtout de l'effacement du passé, puisqu'en fait, et là on révèle le plot twist de Tenet, mais en gros, ce contre quoi se battent les protagonistes de Tenet, c'est l'attaque du futur qui essaye d'inverser le temps pour pouvoir vivre dans une planète qui n'est pas en train de devenir invivable, en gros. Parce qu'on sait que dans le futur du monde des Ténètes, la Terre devient invivable pour les générations futures. Et du coup, leur solution, c'est cet algorithme qui inverse le temps et qui leur permet de revivre sur une Terre habitable, quoi, en gros, c'est ça. Et, et en sacrifiant les générations passées. En gros, c'est ça. Et donc, du coup, le résultat de Tenet, c'est qu'ils réussissent à empêcher cette inversion. Et du coup, sous-entendu, la Terre va arriver à ce problème de fin du monde pour l'humanité, quoi. Ouais. Et du coup, la théorie, c'est que Interstellar, c'est ce qui va se passer dans le futur du monde de Tenet, en fait.
J'aime bien.
Où, du coup, les gens vont essayer de trouver une autre façon d'échapper à cette... Parce que c'est la même fin du monde qui est annoncée. C'est les rivières qui s'assèchent, etc. Et dans le monde d'Interstellar, c'est cette poussière permanente et puis du coup cette impossibilité de cultiver quoi que ce soit, et c'est vraiment ce qui est annoncé dans le futur de Tenet, quoi. Donc j'ai bien aimé cette connexion qu'il y a entre les deux, et du coup ce développement sur encore une fois quelle solution on a pour sauver l'humanité, quoi.
J'aime bien cette théorie, j'aime beaucoup. On passe à la thématique suivante.
Oui. Donc, en fait, on en a peu parlé, mais c'est son attrait pour la science, puisqu'il utilise plein de concepts scientifiques. Mmh. Et là, je vous renvoie à l'épisode sur Tenet pour avoir la leçon de physique-chimie du professeur physique. Charline, de physique du professeur
Charline. Oh, il y a de la chimie, la thermo aussi. Que... Hein. On fait ça fait les deux.
Ah bon ?
Ouais.
Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Non, mais par contre, grâce à votre épisode sur Tenet, j'ai enfin compris l'entropie. Hein.
Ah, tu vois ?
Pigé. C'est J'avais bien. Rien pigé, ok.
Bon, prochain épisode, on parle des trous noirs dans Interstellar.
Ouais.
Si tu veux, parce qu'encore un truc que j'ai rien pigé. Je ne comprends pas. Enfin, quand ils parlent de science dans ces films, je ne comprends pas.
Alors, moi, je pense qu'en fait, il n'y a pas besoin de comprendre. En vrai, que ce soit les trous noirs dans Interstellar, l'entropie avec Tenet, ou... Bon, effectivement, dans le Prestige, on a le personnage de Tesla, qui est un personnage connu, sauf que là, on en parlait vaguement sans en parler tout à l'heure, mais il nous crée des doubles, il arrive à faire du clonage, lui. C'est nouveau. C'est d'ailleurs ce qui a perturbé Thibaut. Hein. Alors, ça l'a énervé qu'un grand scientifique puisse faire du clonage alors qu'il n'a jamais fait de clonage. ça l'a contrarié, le petit. Mais bon. Et moi, je pense qu'on n'a pas besoin de comprendre, en fait, pour suivre ces films. Effectivement, il y a un côté vraiment autosatisfaisant. J'avoue, quand j'ai regardé Tenet, j'étais archi contente de connaître l'entropie et de comprendre comment il avait utilisé la science pour basculer vers le surnaturel. Mais je pense que ce n'est pas obligatoire et que, tu vois, pour le trou noir, j'en parlais avec un collègue qui était hyper déçu parce qu'il s'y connaît un petit peu en trou noir. Et lui, il n'a pas aimé, en fait, comment c'était utilisé, comment il l'interprétait. Mmh. Et ça l'a déçu. Alors que moi, les trous noirs, ce n'est pas du tout mon domaine. Je vois un peu quand ils en parlaient, voilà, avec le trou de verre et tout, je voyais ce qu'ils voulaient en venir, mais comme je connaissais pas plus, j'ai fait ok, et puis voilà, je suis passée à autre chose. Je pense qu'on n'est pas obligé de comprendre pour suivre le film.
Ouais, mais en fait ça m'ennuie, je pense, plus qu'autre chose, en fait, les moments des explications.
Mais souvent, il y en a pas, en fait, quasiment dans Tenet. Ouais, il y en a aucun
peu. La première scène d'inversion. Et parfois des dialogues avec Robert Pattinson. Et il y avait des moments, parce qu'on l'a vu ensemble, je te regardais et j'étais genre, mais de quoi il parle ? Est-ce que j'ai besoin de comprendre ça pour comprendre ? En fait, ça allait, hein.
Mais t'as pas écouté Clémence Poésie dans la première scène qui te dit qu'il fallait pas comprendre, qu'il fallait juste sentir.
Mais voilà, non, mais ça c'est bon, ça je comprends. ça je comprends, mais... Mais alors, à partir du moment où on parle de concept, mon cerveau, il s'éteint, je crois.
D'accord.
C'est mon cerveau de littéraire aussi qui fait « j'ai pas compris ».
Et toi, ton cerveau de littéraire, Marjo ?
Moi, j'adore. Parce que même si j'ai un cerveau de littéraire, j'ai aussi cette... moi, je pense que mon cerveau peut-être fonctionne un petit peu comme celui de Nolan. Alors, ça va paraître hyper prétentieux, mais plutôt dans le sens où j'ai l'impression que lui, la manière dont il utilise la science, c'est que déjà, on sait qu'il travaille avec des vrais spécialistes des domaines qu'il aborde dans ses films, pour que même si après, lui, il le tire pour que ça soit utile dans son histoire, le fond est quand même crédible, on va dire. Enfin, c'est assez crédible pour qu'on se dise, ok, c'est un truc scientifique, c'est pas que de la fantaisie, quoi. Et ça, c'est cool, et ça, j'aime bien, parce que je suis toujours En fait, j'ai cette curiosité pour les sciences, même si je ne comprends pas forcément tout, et que je suis nulle en maths ou tout ce qu'on veut. Mais c'est, je trouve ça quand même fascinant. Et du coup, je pense qu'il joue sur cette fascination des mystères de la science et des trucs scientifiques qui sont certes réels, mais qui sont tellement fous pour le commun des mortels que le glissement vers le surnaturel ou la science-fiction se fait facilement pour quelqu'un comme Nolan qui a plein d'idées et qui du coup va s'engouffrer dans le côté mystérieux et peut-être aussi les limites de l'avancée scientifique à un instant T, quoi, que ce soit sur les trous noirs ou sur l'entropie, etc. Pour lui aller plus loin et introduire du surnaturel dans le Prestige ou la science-fiction, dans Interstellar ou dans Tenet, quoi. Et ça, moi, je trouve ça génial. Enfin, qu'on part d'un truc réel pour aller vers du surnaturel, enfin, en tout cas, vers de l'imaginaire, ça, j'adore, quoi.
Tu sais à quoi ça me fait penser, ça ? Enfin, l'autosatisfaction et tout, moi, ça me fait penser aux séries médicales.
Ah, tu vois, c'est... Ouais, pardon, vas-y, continue.
Ouais, c'est ça, t'as pas besoin de comprendre la maladie, genre le lupus, etc., mais t'aimes bien. Ouais. Et je pense que c'est un peu pareil là pour Nolan, alors que oui, les médecins, etc., ils regardent la série, ils font « je suis d'accord ou je suis pas d'accord », enfin ça c'est possible, ça c'est pas possible, et ils comprennent, alors que en tant que néophyte, ça fait « ah, je comprends rien, mais c'est pas grave ».
Ouais, tu regardes pour autre chose.
C'est ça, bah je pense que ça fait un peu pareil, ouais. Même si je suis perdue dans les explications... Bah, ça me dérange pas pour le reste du film, quoi. C'est juste ce moment-là où je vais être un lupus. Ouais.
Ok.
Même si, comme on l'a dit pour Tenet dans notre épisode précédent, parfois il complique plus que nécessaire certains dialogues pour faire plus scientifique.
Ouais, ça, c'est horrible.
Et là, je suis totalement d'accord avec Louli dans le sens où c'est pas de la vulgarisation du tout, quoi. Non. Il essaye pas de rendre plus accessible. Certes, il a fait découvrir le concept, le mot même d'entropie à plein de monde, mais voilà, il n'a pas essayé de le rendre accessible au commun des mortels.
Pas du tout. Autre avant-dernière, tiens d'ailleurs, thématique. Alors, je ne sais pas si vous le savez, sûrement, parce que c'est quand même un truc assez connu, mais bon, peut-être pas, c'est que Nolan n'utilise aucun écran vert. Vous savez, les... Pardon,
je suis désolée. C'est quoi ça ?
C'est mon lapin qui éternue. Bon, je ne sais pas si ça va être laissé au montage, si vous allez l'entendre, mais désolée, c'est mon lapin qui éternue.
Je vais le laisser parce que c'est trop mignon.
Bon, du coup, beaucoup de réalisateurs utilisent un écran vert, c'est-à-dire, bah, par exemple, le premier film auquel je pense, c'est Le Livre de la Jungle, le film live, où Mowgli n'est pas du tout dans la jungle, mais dans un studio et tout est vert autour de lui, il rajoute les images derrière. Et de plus en plus de films sont tournés de cette manière, ce que je trouve assez dommage. Et en fait, Christopher Nolan ne veut absolument pas en utiliser. Et moi, j'aimerais bien parler de trois scènes que j'ai trouvées complètement dingues quand j'ai su qu'il n'y avait pas d'écran vert. Et les trois avec un avion, je m'en suis rendu compte après, ça m'a fait rire du coup. C'est déjà la scène d'ouverture dans Dark Knight Rises avec Bane quand il est dans l'avion. Je pense que tout le monde se souvient à peu près de cette scène ou arrive à la voir. Ou si vous n'avez pas vu le film, bah non, mais c'est une scène assez mythique d'ouverture. D'ailleurs, juste petit comme ça, Nolan est fort pour les scènes d'ouverture. Hein, je suis en train de me dire.
Grave.
Et j'ai lu un super article sur Allociné. Si ça vous intéresse, tapez scène d'ouverture Christopher Nolan, où il y a des petites vidéos de toutes les scènes d'ouverture. Et c'est vrai qu'elles sont incroyables. Mais bon. Deuxième scène dingue sans écran vert, c'est... toujours avec un avion, du coup, les scènes de vol dans Dunkerque. Comme on le disait tout à l'heure, il y a du coup Tom Hardy qu'on suit dans un cockpit en train de voler. Et donc, bon, il y a des scènes où l'avion vole, ça, ok, hein, ils étaient sur Terre, l'avion volait, ils filmaient, il n'y a pas de souci. Mais il y a du coup les scènes où ils filmaient Tom Hardy à l'intérieur de l'avion, du cockpit. Et là, bah, effectivement, il y a le ciel derrière qu'on est censé voir. Eh bien, ils n'ont pas utilisé d'écran vert du tout. Ils ont mis le cockpit de l'avion sur une falaise en Californie et Nolan était sur une plateforme en hauteur pour filmer. Et j'ai trouvé ça incroyable quand je l'ai su. J'ai pas vu de vidéo, mais je me suis dit, waouh, ah ouais, quand même, c'est beau.
C'est fort, c'est fort.
Et le dernier, bon, bah, c'est le crash de l'avion dans Tenet. Hein. Je pense que ça, par contre, on a vu des vidéos, des making-of partout. Il n'y a que Nolan pour faire ça. Et tu le fais une fois, tu ne le fais pas deux, hein, je pense. Mais...
C'est clair, il peut y avoir qu'une scène.
Il y a un problème. Il y a un problème. C'est genre... Il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi derrière, quoi.
C'est ça.
Genre, faut le gommer numériquement, je sais pas, mais sachant qu'il est sur pellicule, Nolan.
Oui.
C'est un grand défenseur de la pellicule.
C'est vrai.
Donc,
ouais, même s'il est passé, aussi IMAX, quand même. Ou là, du coup, c'est ouais. Autre chose.
Mais du coup, il y a plein d'autres scènes. Je pense à la bibliothèque, du coup, à la toute fin dans Interstellar.
C'est fou.
Mais c'est fou. Ou dans le vaisseau, quoi, avec le trou noir qu'on voit par les fenêtres. En fait, ils avaient filmé, enfin, ils avaient pris des images de trous noirs, du coup, avant, et ils les avaient vraiment projetées sur des écrans avec par les fenêtres. Et donc, les acteurs avaient vraiment l'impression d'être dans un vaisseau, qu'ils tournaient dans un faux vaisseau géant, quoi. Et de voir vraiment par la fenêtre, ils voyaient vraiment le trou noir. Je trouve ça incroyable pour l'acteur. Je trouve que c'est aussi beaucoup plus facile pour se projeter et pouvoir jouer.
Ouais, enfin, c'est beaucoup plus acteur studio, ouais. T'as l'impression de vivre le truc.
Mais c'est ça.
Mais tout ce qui est explosion, parce qu'il est quand même très amateur d'explosions.
Ouais, c'est vrai.
Il faut imaginer que toutes les explosions qu'on voit à l'image, c'est des vraies explosions. Je pense qu'il a, quelque chose avec les flammes, les gros booms.
Ouais. Et du coup, par contre, j'avais juste lu une critique, je voulais revenir dessus, où des gens disaient « Oh, dans Dunkerque, on voit des fenêtres en PVC au très loin. » Alors moi, je les ai cherchées, je ne les ai pas vues, mais bon, sûrement. Mais effectivement, hein, comme il a tourné bien à Dunkerque, qu'il ne met pas d'écran vert, bah, il a essayé de les éviter au maximum tout ce qui était moderne. Mais forcément, bah, il y a peut-être à des moments où on a vu des choses qu'on n'aurait pas dû voir. mais je pense que faire tout ça, c'est plus important, entre guillemets, que voir au loin, 30 secondes, une fenêtre en PVC.
Ouais,
enfin, c'est mon avis, après c'est juste mon avis, mais voilà.
Bah, c'est un bon épisode de Four Accords.
Ouais, voilà, c'est exactement. Ça, comme ça fait parler, ça fait des vidéos, c'est super.
Voilà.
Mais c'est vrai, quand on a parlé de tout ça, et puis en ayant cette revue de toute la filmographie de Nolan, j'ai repensé du coup au Prestige, qui quand même, donc l'intrigue est basée sur... On suit des grands illusionnistes et on explore les limites du coup de la magie technique, quoi, de la grande illusion et des effets de trompe-l'œil, etc. Et donc ça m'étonne pas, quoi, que c'est un de ses premiers gros films et que il s'est plongé à fond dans cette thématique des grands illusionnistes, parce que ce qu'il fait avec son cinéma, c'est la raison pour laquelle il veut pas d'écran vert, c'est pour jouer justement là-dessus, quoi.
Ouais,
et la surenchère d'illusion, lui, il l'a fait aussi dans dans ses films, quoi. Donc c'est en gros, ouais, il considère que les effets numériques, un peu, c'est tricher, quoi. Donc
c'est vrai. Hein, moi, je suis d'accord. Hein. Je trouve c'est un peu de la triche. Des fois, quand je vois certains making of, des fois, je suis déçue. Je me dis, oh, ça, ils auraient pu le faire quand même.
Mm-hmm. Ouais, bon,
c'est ce qui avait été un peu décevant de la prélogie de Star Wars. Par rapport à la trilogie originale, où du coup, là, pour le coup, George Lucas, lui, il adore les effets numériques, c'est sa passion. Et il a permis d'énormément faire améliorer les techniques, donc c'est chouette.
Oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai.
Mais bon, du coup, la manière dont a été tourné les épisodes 1, 2, 3 est très différente des 4, 5, 6. Mm. Et après, on a du coup la nouvelle trilogie qui retourne sur un équilibre un peu plus... raisonnable entre effet pratique et effet numérique, qui est assez chouette, je trouve.
C'est vrai.
Bon, c'était une petite parenthèse de Star Wars.
Moi, j'adore les parenthèses de Star Wars, tu le sais.
Mais oui, on parle pas assez de Star Wars dans ce podcast.
Je suis tout à fait d'accord. Mais bientôt, The Mandalorian sort bientôt la saison 2. Attendez-vous à un épisode spécial.
C'est clair. Et on va parler forcément de Making of de Mandalorian, parce que c'est fascinant la manière dont ils filment aussi.
Oui, ça va être un super épisode.
Mais du coup, pour revenir sur les articles que tu as trouvés là, sur ces questions de pourquoi ils n'utilisent pas de fond vert, j'ai retenu une citation où il dit que c'est peut-être efficace de décorer une scène avec des formes numériques ou étirer les bords en CGI, mais si vous construisez à partir de vrais matériaux et étirez à partir d'un vrai paysage, l'image a un poids qui serait sinon absent. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant parce qu'effectivement, c'est tout l'enjeu quand on utilise le numérique de donner le poids réel des choses de manière artificielle, et c'est hyper dur à faire, quoi. Et c'est souvent ce qui manque. Et en fait, comme juste avant, on parlait de la manière dont tu utilises des vraies idées scientifiques, j'ai essayé, je me suis dit, mais il y a peut-être un lien à faire entre ces deux réflexes-là. Alors, c'est peut-être tiré par les cheveux, hein. Mais en gros, je me dis que l'idée de partir du réel, concret, tangible, qui donne du poids au film, c'est un peu la même chose que de partir d'une théorie, concept scientifique réelle, pour ensuite créer une illusion qui tire vers la science-fiction. Et je me dis, c'est un peu la même chose que de partir de choses qui filment réellement pour créer des illusions et créer du plus que réel, puisque quand même, ce qu'on voit dans les films de Nolan, c'est pas du documentaire, loin de là, quoi. Et il manipule les images pour avoir... pour donner l'effet qu'il veut donner. Et c'est un peu le cœur du cinéma. Je pense que Loli ne peut qu'approuver ça. Mais...
Je ne peux qu'approuver.
Mais je ne sais pas, peut-être que c'est juste moi qui fais un parallèle un peu...
Non, j'aime beaucoup, les cheveux, moi. Mais... J'aime beaucoup ton parallèle. Pendant que tu parlais, je nous envoie des fleurs. J'étais en train de dire, il est intéressant quand même ce podcast, on apprend plein de trucs. Bon, voilà. Mais en gros, juste pour conclure ce petit passage, tu parlais d'articles, effectivement, qu'on avait lu sur ça. Et moi, il y a un article que j'ai beaucoup aimé avec plusieurs scènes, justement, où il parle de plusieurs scènes où il n'y a pas de fond vert, avec des petites vidéos de making-of. C'est sur le site internet Écran Large. Donc voilà, si vous voulez aller voir, si ça vous intéresse, n'hésitez pas.
Tout à fait.
Ouais. Et donc, comme on a vu, il a beaucoup de thèmes récurrents, Nolan, mais il a aussi une équipe récurrente. Il a toujours les mêmes personnes, comme il a toujours les mêmes thèmes, toujours les mêmes trucs sur le temps. Il a beaucoup de gens qui reviennent dans la plupart de ses films. Donc, on a déjà parlé de Michael Caine, qui est partout. Mais sans rentrer dans les détails, il y a souvent la même équipe. Mais bon, c'est un truc classique quand même des grands réalisateurs, c'est que... ils ont leurs potes.
Ouais, je pense que c'est normal. Au bout d'un moment, t'aimes bien tourner avec quelqu'un, ça marche bien, ça mate, ils font fort. Allez, on reprend les mêmes.
C'est ça. Mais donc, on a Hans Zimmer pour la musique, qui est sur quand même 6 films sur 10. Donc, j'imagine qu'il n'est pas sur Following. Mais
c'est... mais il n'est pas sur Tenet, puisqu'il est allé avec Ludwig Göransson.
Ouais, et alors...
D'une nouvelle star de...
J'ai lu pourquoi. Mm-hmm. En fait, c'est parce que Hans Zimmer, il a préféré aller faire la musique de Dune.
Ah. Mais il a dû trop mal prendre. Bah non, justement.
J'ai lu une interview, et du coup, dans l'interview, il disait, mais Christopher Nolan a tout à fait compris, et je suis sûre que la musique et que le film sera extraordinaire, un truc comme ça. Bon, on verra s'il est dans le prochain, du coup. Hein.
Ah, je comprends, parce que Dune.
Non, bah alors, je suis désolée, mais j'ai jamais vu l'ancien, j'ai jamais accroché, j'ai jamais adhéré. J'ai un peu honte quand je vois que tout le monde en fait tout un foin, mais...
En fait, moi, c'est pour ça que j'ai pas vu non plus, mais ça fait tout un foin.
Ouais.
Donc, musicien, tu te dis, si je vais pas sur ce projet...
C'est sûr.
Non, puis c'est Denis Villeneuve, je veux dire, j'adore Nolan, mais j'adore aussi Denis Villeneuve, donc c'est...
C'est vrai, c'est
pas faux. Quand même, je comprends aussi pour...
Le projet avorté de Jodorowsky... Qui a eu un documentaire, il y a tout le monde qui attend cette adaptation de Dune, en fait. Il y a quand même un truc comme ça où je pense que Hans Zimmer, il s'est dit, bon, ça va peut-être être historique.
Ah non, mais le bien fait, hein, c'est sûr. Et puis au final, Tenet, la musique était incroyable, on en avait parlé dans le dernier épisode. Ouais. Donc non, tout le monde a eu bien fait, tout le monde s'en sort bien. Je pense que ça...
Et d'ailleurs, dans le genre d'anecdote, il me semble qu'il y a un truc comme ça avec Robert Pattinson qui a menti à Nolan pour aller pouvoir faire ses auditions pour Batman.
Ah ouais ? Je suis au courant.
Il y a un truc comme ça, parce que c'était en parallèle du tournage de Tenet, et où du coup, il a dû trouver une fausse excuse pour pouvoir aller auditionner pour Batman. Je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais il me semble qu'il y a un truc comme ça.
C'est pas possible, mais t'as pas 12 ans, Pattinson.
Oh, tu sais, des fois, s'ils lui disent non, tu restes, sinon je t'enlève du film. J'en sais rien, tu vois, peut-être.
Hein. Oh. Je sais pas. Mais pareil, officiellement, Nolan ne lui en veut pas du tout et qu'au contraire, il a hâte de voir ce que ça va donner Pattinson en Batman.
Comme nous.
Est-ce que c'est ça ? Et est-ce qu'il sera mieux que les miens ? Oh là là !
Ah bah oui, ça aussi, j'avais pas fait
Ouais, j'avoue, en plus.
Bah oui. Est-ce qu'il sera mieux que mon chouchou, qui est Christian Bale? Parce que lui aussi, Christian Bale, il reparaît partout.
Bah, dans tous les cas, à mon avis, dans tous les cas, il sera forcément mieux. C'est méchant ce que je vais te dire. Il sera forcément mieux que Ben Affleck.
Oh, ah bah oui.
Oh, c'était pas... Enfin, bon, je... Ouais, c'est sûr que c'était pas le meilleur, mais c'était pas si mal quand même. J'aurais bien aimé voir, parce qu'il avait son projet, Ben Affleck, de faire son propre Batman, du coup, où il aurait été à l'écriture, je crois, ou à la réalisation, je sais plus, mais j'aurais bien aimé voir ce que ça donne. Mais bon, ils ont laissé tomber, mais... et je suis très contente du nouveau projet. Mais...
Pourquoi ils ont laissé tomber?
Je sais plus, je crois que Ben Affleck s'est dit, ouais, pff, non.
Il y a trop de Batman. Il y a trop de Batman, c'est bon.
À moins qu'ils ont été tous dégoûtés. Ils ont peut-être été tous dégoûtés par l'expérience Justice League qui apparemment était un peu pénible pour pas mal d'entre eux. Donc bon.
Après c'est dommage parce qu'en tant que réalisateur, je sais qu'il avait fait Argo que j'avais beaucoup 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 aimé. Donc ça aurait pu être pas mal. Ça aurait pu. Ouais. Bon. Ok. Et beaucoup du coup, je pensais à un truc pareil. Ouais. En faisant mes petites recherches, j'ai lu un truc hyper intéressant sur Michael Caine. Je crois que c'était dans un article de Hightech. Ça existe le site internet hightech.fr ?
Ouais,
c'est ça. Ouais. Où il disait, je cite, « Avec ses rôles de vieux sage, il permet au cinéma de Nolan d'être toujours solidement accroché à sa dimension didactique que vient menacer une dimension science-fiction à grand spectacle. »
D'accord.
C'est beau, non ?
C'est son Morgan Freeman, quoi.
Ouais, un peu.
Ouais, bah, il
ouais, mais je trouvais ça, je me suis dit c'est pas faux, il a toujours le rôle vraiment du vieux sage, de effectivement tu vois dans Inception il est que dans la réalité, il est pas dans les rêves, il a un côté un peu il nous raccroche à la réalité, il nous rassure, enfin, je trouve, j'étais un peu d'accord avec eux, mais voilà.
Bah, c'est une des personnes qui enfin pour moi il a dans Interstellar, il n'arrive pas à mourir ce type. Il est tellement vieux, à un moment je suis en waouh, il n'était toujours pas mort.
Ouais, c'est vrai, mais tu vois là encore une fois, c'est pas lui qui part, lui il reste sur Terre, c'est lui qui vieillit, c'est lui qu'on. Tu vois, je me disais que c'était une belle image, j'avais bien aimé.
Ouais, mais dans Interstellar, il a encore un rôle même encore plus intéressant, puisqu'il. Lui il perd espoir en fait, dans. Enfin, il... Alors que du coup, t'as la jeune femme qui forme. Qui reprend le flambeau et qui le dépasse, en fait. C'est l'élève qui dépasse le maître, quoi.
C'est vrai.
Et ça, j'ai trouvé ça assez chouette. Mais il a toujours des rôles très, très humains, en fait. Il donne cette touche d'humanité qui, parfois, manque chez Nolan, où on reproche souvent que c'est froid, etc.
Ouais.
Et Michael Caine, souvent, c'est lui qui incarne ça. Et c'est le cas dans les Batman, évidemment, bien la sûr. Relation entre lui et Christian Bale, c'est magnifique, quoi. Enfin, c'est un des grands, grands points forts de la trilogie, même dans les films qui sont un peu moins bons, quoi.
Ouais.
Mais, et c'est ce qui manque, je pense, peut-être dans Tenet.
C'est ce que j'allais dire.
Il est tellement anecdotique dans Tenet et il n'a pas ce rôle qu'il devrait avoir normalement dans un film de Nolan.
Donc,
c'est peut-être ce qui manque.
C'est vrai.
Où est-ce qu'il est déjà? Où est-ce qu'il est déjà? Attends.
D'internet, et il mange, il a un repas, ouais, il fait juste un repas avec le protagoniste.
Pour faire une blague sur l'élégance britannique, c'est tout.
Ah oui, oui, mais c'est vrai qu'au début, c'est juste avant qu'il voit le vol indienne.
Oui,
mais,
oui ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il est quand même très, comment dire, il est quand même très élégant. Hein. Il faisait une blague sur l'élégance britannique, c'est quand même un monsieur très élégant.
Bah c'est clair.
Et je crois qu'il n'y a que dans Dunkerque qu'il apparaît pas, mais il fait un caméo, non?
Bonne question.
Je vous ai perdu. Il me semble que j'avais lu ça, que même s'il apparaissait pas, il faisait un caméo.
Ah bah là, ça veut dire que t'es vraiment pote avec le réalisateur, quoi. Il t'appelle pour une demi-journée pour juste que t'apparaisses une fois. Ça veut dire que c'est ton bébé, quoi. Genre, c'est
bah bon. Oui.
C'est parti. Ouais, juste un dernier truc sur le casting où on retrouve toujours les mêmes personnes. On retrouve aussi un peu les. Enfin, j'avais vu ça, un peu les mêmes types de personnes. Dans le sens où il aime bien prendre les acteurs, des acteurs qu'on verrait pas forcément dans ces rôles-là. Par exemple, vraiment Heath Ledger, qui était vraiment le Minet par excellence, et ben il est devenu Joker. C'est quand même très particulier comme façon de se dire genre ouais Heath Ledger ou ouais, le Joker. Alors que maintenant on n'imagine pas trop The Dark Knight sans Heath Ledger, quoi.
Oui, c'est pas faux. Tiens, c'est pas faux. J'avais pas pensé à ça, mais en effet.
C'est vrai.
Du coup, il serait peut-être temps de conclure afin d'éviter d'avoir un épisode de 3 heures, même si je suis sûre qu'on pourrait débattre sur Christopher Nolan pendant 3 heures.
Oui, il faudrait inviter des gens qui n'aiment pas le cinéma de Nolan, parce que vous avez compris, toutes les trois, on aime beaucoup. Mais on sait que voilà, c'est quelqu'un qui peut être très clivant dans les amateurs de cinéma. Donc, on est totalement consciente qu'on n'offre que le côté des amatrices. Quoi.
Après, je trouve qu'on a quand même parlé de quelques... Enfin, moi, je sais qu'il y a quelques points que je n'apprécie pas forcément. On en a quand même parlé. On a quand même soulevé quelques critiques, quelques remarques. Le côté trop compliqué, juste pour un peu une élite de qui va comprendre. Enfin, voilà, on a quand même soulevé des choses qui ne nous plaisaient pas. J'ai l'impression qu'on n'a pas été complètement... subjective, en mode il est génial, il est parfait, adorez-le, regardez, voilà. Mais bon, c'est effectivement trouver trois personnes qui aiment Nolan, voilà. Mais c'est vrai que dans notre entourage, personne n'aime pas les films de Nolan. Enfin...
Ah, j'en ai une.
Ah oui ?
J'ai une pote. Une pote qui n'aime pas Nolan.
Mais elle aime aucun des films.
Mais qui n'aime pas ça.
Même les Batman, qui sont quand même très très différents.
J'avoue, on n'a pas parlé des Batman, mais en fait, ce qui l'énerve, c'est plus la science, on va dire, et le fait qu'elle n'a pas l'impression que ce soit... comment expliquer ça ? Possible. Enfin, le rêve, ça ne fonctionne pas comme ça, etc. Enfin, c'est des remarques comme ça.
Ah, mais ça, c'est un film de science-fiction, après, il faut...
Oui, mais ce qui fait que ça...
Il y a la suspension de...
Ça l'énerve.
D'accord. On pourra l'inviter la prochaine fois, mais le prochain Nolan sort.
Pour le prochain Nolan. Mais du coup, pour peut-être revenir en guise de conclusion sur nos films préférés de la filmographie de Nolan, même si on a déjà donné des indices au fil de l'épisode sur lesquels on préférait.
Oui.
Mais moi, comme je l'ai dit, je pense que celui qui dépasse tous les autres, pour moi en tout cas, c'est The Dark Knight. Puisque même s'il y en a beaucoup que j'aime beaucoup chez Nolan, notamment Le Prestige, Interstellar, à part la fin encore une fois, Inception, qui sont tous des films qui m'avaient énormément impressionnée, émue, captivée, The Dark Knight, vraiment, en fait, j'ai du mal à expliquer pourquoi, mais c'est un film, à chaque fois que je le vois, je me dis, putain, il est vraiment, vraiment bon. Tu vois, autant il y a parmi mes films préférés que j'ai vu peut-être plus de fois que The Dark Knight, et je les revois, et je me dis, je m'y sens à l'aise, j'aime bien l'ambiance, etc. The Dark Knight, à chaque fois, je suis impressionnée. C'est juste que je suis impressionnée, quoi. J'adore ce film, il est probablement dans mon top 10 mes films préférés de tous les temps. Voilà, après, mes derniers revisionnages... me font voir plus peut-être ses défauts, et notamment le manque cruel de personnages féminins dignes de ce nom. The Dark Knight ressortirait aujourd'hui, ça serait plus un problème pour moi, je pense, pour le mettre autant sur un piédestal. Mais voilà, je ne peux pas me départager l'impression qui m'a fait dès le premier visionnage, et qui revient à chaque fois, et je pense qu'on a parlé de Heath Ledger en Joker, et il joue pour beaucoup dans mon appréciation de ce film.
Alors, moi, ça m'a pas du tout fait ça. Je l'ai bien aimé, mais je crois que c'est un de ceux que j'ai vu le moins. J'ai bien aimé la trilogie de Batman, sauf le premier. Je m'ennuie un peu devant le premier, je suis désolée.
Ouais, j'ai du mal avec le premier.
Mais non, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Je me rappelle effectivement que c'était une claque. J'ai plus souvenir du 3 parce que je l'avais vraiment vu au cinéma et j'en ai des souvenirs. Mais ils sont pas dans mon top 10, tu vois. Par contre, je mettrais peut-être Interstellar, qui est mon chouchou. Alors, comme je dis, je l'ai vu qu'il y a 2 semaines. Mais Thibaut, c'est vraiment son préféré parce qu'il adore ce côté. Où il a l'impression que le temps, comment dire, il a l'impression que c'est le plus logique, que c'est le plus réaliste de tous les Nolan. Et du coup, il n'arrêtait pas de m'en vanter. Et moi, vous savez, plus on parle d'un film, moins j'ai envie de le voir. Ouais. Du coup, j'ai mis beaucoup de temps et je l'ai vu uniquement parce qu'on faisait ce podcast. Et donc, je l'ai vu avec lui et j'ai été scotchée à mon canapé du début jusqu'à la fin. Je ne voulais même pas faire de pause, alors que moi, à l'habitude, je regarde un film, typiquement le dernier épisode The Umbrella Academy, je l'ai vu en 4 fois parce que j'en ai marre, faut que je me lève, faut que j'aille boire, faut que j'aille aux toilettes, faut que j'aille manger, faut que j'aille dormir. J'ai beaucoup de mal à rester concentrée chez moi. Mais alors lui, j'étais scotchée, je voulais pas m'arrêter, j'arrêtais pas de poser des questions, j'étais vraiment à fond dedans. Et voilà, j'ai adoré. Après, je pense que je les aime vraiment quasiment tous. Sauf quelques petites déceptions, comme le premier Batman, Dunkerque, voilà, il y a quand même. Et puis j'arrive à voir les défauts dans tous, j'en ai parlé un petit peu. Mais ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que vraiment, ses films sont très très différents au premier abord. Effectivement, on trouve des thématiques communes, mais il y a quand même un film de super-héros, il y a la conquête de l'espace pour éviter la fin du monde, il y a un film... un film non historique, non de guerre, mais voilà, vous avez compris. Mais qui au final ont tous la même symbolique. Voilà, on reste concentré du début à la fin et c'est un truc qui que j'ai pas forcément dans les autres films et pour ça que j'aime Nolan.
Ouais. Mmh. Ouais, pour ma part, moi c'est plus le montage et les et le plot twist qui me passionne chez Nolan. J'ai un peu plus de mal avec bon les films dans l'espace, donc voilà, Interstellar, j'ai un peu plus de mal. Les films où il y a des obus, j'ai un peu plus de mal aussi, pour ne pas dire films de guerre, films historiques.
Je suis en train de me dire qu'il n'y a pas d'obus.
Attends, c'est bon, c'est le running gag. Hein.
Je viens de comprendre.
Mais pour moi, Memento, Inception, ça a été des gros coups de cœur pour moi. Inception, parce que justement, en fait, pendant quand même une heure, là, c'est de la théorie, mais c'est de la théorie où il prend son temps, il dit pas, il dit pas des mots trop compliqués qui m'éteignent le cerveau. Mais on voit tout ça avec Ellen Page, et donc c'est, enfin avec le personnage d'Ellen Page, et j'adore. Et le truc dans le rêve, et surtout la référence à Paprika, regardez-le, c'est vraiment beau,
ouais,
et c'est super coloré. Par contre, c'est super coloré, c'est le contraire d'Inception. Hein, c'est, mais ça joue encore plus, quoi. Et Memento, parce que là, avoir un film à l'envers, c'est très étrange, et le plot twist est vraiment incroyable. Voilà.
Ok. Bah écoute, merci Louli vraiment d'être venue avec nous dans cet épisode.
Eh ben, merci, première invitée. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très très plaisir d'être là.
Et on espère que cet épisode vous a plu et que ça vous a plu, qu'on apporte une nouvelle voix aussi. Et on espère inviter d'autres personnes sur notre canapé pour des prochains épisodes qui s'y prêteraient. Et du coup, n'hésitez pas aussi à nous partager, si vous êtes aussi amateur, amatrice de Nolan, quels sont vos films préférés de sa filmographie. Ou peut-être quels sont vos réalisateurs favoris, pour que peut-être ça nous donne des idées d'autres épisodes thématiques sur un réalisateur, pourquoi pas?
Ben oui, bien sûr, ça peut être avec plaisir. Et puis surtout, bah, on parlait tout à l'heure du fait que tous les trois on aimait bien, donc même si on a parlé un petit peu des choses qui nous déplaisaient, on est resté quand même plutôt dans le positif. Donc si vous n'aimez pas et que vous voulez nous expliquer pourquoi, n'hésitez pas et on pourra partager vos témoignages sur nos réseaux sociaux. Donc nous, vous pouvez nous trouver à PopT un peu partout, donc sur Facebook et sur Instagram, donc PopTPodcast, j'arriverai à le dire un jour correctement. Sur Insta, on poste pas mal de petites reviews de séries qu'on regarde, de films qu'on regarde. Récemment, on a partagé nos listes Netflix, Prime, Disney+. Enfin, j'ai partagé mes listes. Marjo va partager ses listes bientôt. Je rigole.
Oui, 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 il faut que je m'y mette.
Enfin, voilà, ça peut vous donner des petites idées. Et puis, on donne des avis sur nos visionnages récents, de choses dont on ne parle pas forcément dans les épisodes. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et puis à nous donner vos avis, vos retours, etc. Bon bah merci à tous et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Au revoir.